Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur le soutien au plan de paix de Donald Trump à Gaza et en particulier sur le déploiement d'une force internationale sous la pression des États-Unis. En Arabie Saoudite, 45 pèlerins en majorité de nationalité indienne sont morts dans un accident de car cette nuit près de la ville sainte de Médine. Et enfin, Volodymyr Zelensky a signé avec Emmanuel Macron à Paris une déclaration d'intention qu'il a qualifiée d'historique en vue de l'achat futur d'une centaine d'avions de combat français Rafale. Et on débute ce point information par l'actualité au Proche-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur le soutien au plan de paix de Donald Trump à Gaza, en particulier sur le déploiement d'une force internationale sous la pression des États-Unis qui mettent en garde contre le risque d'une reprise de la guerre. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et plusieurs de ses ministres ont réitéré leur opposition à un État palestinien. L'Allemagne va lever le 24 novembre l'embargo partiel sur les exportations d'armes vers Israël, décrété début août en réaction à l'expansion de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, selon un porte-parole du gouvernement. Et l'Afrique du Sud dénonce une volonté manifeste d'expulser les Palestiniens de Gaza après l'arrivée dans le pays de 153 Palestiniens à bord d'un avion la semaine dernière. Et on reste au Proche-Orient, en Arabie Saoudite, 45 pèlerins, en majorité de nationalité indienne, sont morts dans un accident de car cette nuit près de la ville sainte de Médine. Et dans un tout autre volet, Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, est attendu à Washington aujourd'hui pour la première fois en 7 ans. Il sera à la recherche de garanties de sécurité, selon les experts, tandis que Donald Trump l'attend sur la normalisation des relations de son pays avec Israël. Et dans le reste de l'actualité internationale, les autorités syriennes vont livrer à la Chine des djihadistes issus de la minorité musulmane ouïghour, selon des sources diplomatiques, une information qui a été démentie par le ministère syrien des Affaires étrangères. En France, une des galeries du Louvre sera fermée au public par mesure de précaution après qu'un audit a révélé la particulière fragilité de certaines poutres d'une des ailes du bâtiment, selon le musée. Et enfin, le Paris Saint-Germain demande à Kylian Mbappé 180 millions d'euros au prud'homme en compensation d'un transfert avorté après une offre du club saoudien d'El Hilal de 300 millions d'euros déclinée par le joueur en juillet 2023. Kylian Mbappé réclame lui 240 millions d'euros au Paris Saint-Germain. C'est la fin de votre point actualité. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Volodymyr Zelensky a signé ce lundi avec Emmanuel Macron à Paris une déclaration d'intention qu'il a qualifiée d'historique en vue de l'achat futur d'une centaine d'avions de combat français Rafale dont l'Ukraine entend se doter pour la première fois. Et on écoute à ce sujet le président français Emmanuel Macron qui s'est exprimé ce lundi.
L'acquisition jusqu'à 100 Rafales, nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. C'est là une nouvelle génération qui s'ouvre après la livraison des Mirage 2000 qui avait été actée il y a plusieurs mois et la formation des pilotes. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafales avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes de, évidemment, de production. Nous prévoyons pour tout cela un renforcement de notre coopération bilatérale, actant de la complémentarité de nos industriels et donc dans beaucoup de ces capacités aussi des coproductions avec le développement de projets communs sur le sol ukrainien, en particulier en matière de drones et d'intercepteurs de drones. Et nous aurons tout à l'heure une discussion dédiée sur ce sujet qui est un des éléments déterminants de la résistance actuelle de l'Ukraine et déterminant pour les succès à venir. Cet accord est la démonstration de la volonté française de mettre son excellence industrielle et technologique au service de la défense de l'Ukraine et donc de l'Europe.
Des propos du président français Emmanuel Macron. Direction le Proche-Orient maintenant avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui a achevé le retrait de ses forces d'une zone frontalière stratégique située dans le nord de l'Irak. Cette mesure, Loïc Barrière, vise à renforcer le processus de paix avec le gouvernement turc.
Oui, ce retrait de la région de Zap dans le nord de l'Irak intervient 6 mois après la décision du PKK de renoncer à la lutte armée contre la Turquie. Le PKK disposait de bases dans cette zone qui a été la cible d'une opération terrestre menée par les troupes turques en 2008. Des bases qui ont souvent subi des frappes aériennes. C'est dans cette région que le PKK avait son quartier général avant son transfert plus à l'est dans les monts Kandil. Le parti des travailleurs du Kurdistan affirme que ce retrait est une contribution concrète et significative au développement et au succès du processus de paix et de société démocratique initié par le leader Abdullah Öcalan. En mai dernier, le PKK avait annoncé sa dissolution, répondant à un appel en ce sens d'Abdullah Öcalan, son chef historique emprisonné depuis 26 ans. En juillet, une trentaine de combattants en treillis ont brûlé leurs fusils pour marquer une première phase de désarmement dans le Kurdistan irakien. Un mois plus tard, une commission parlementaire turque a été chargée de préparer un cadre juridique au processus de paix. Le conflit entre le PKK et l'armée turque a coûté la vie à plus de 50 000 personnes en 4 décennies.
Et merci à vous, Loïc Barrière, pour toutes ces précisions. Et notre dernier dossier du jour, c'est la remise du Grand Prix du Pen Club français décerné à Boualem-Sansal samedi dernier à Paris. Il a été remis à sa fille, Saheba Sansal, l'écrivain franco-algérien libéré mercredi dernier, après plus d'un an de détention en Algérie. De nombreuses personnalités étaient au rendez-vous lors de cet événement, dont la présidente du Pen Club français, Carole Mesrobian.
Ce que ça représente pour nous, êtres humains, c'est une grande libération pour nous, avant tout, et puis une joie. Et puis un espoir. Alors, bien entendu, il y a encore énormément d'autres écrivains, près de 400 en 2024, pour 270 en 2019. C'est dire si la liberté d'expression est une denrée qui fait envie aux extrémistes et au pouvoir coercitif. Mais cette libération, puisque c'est Boualem-Sansal, cet écrivain libre et visionnaire, c'est un moment d'humanité formidable et ça ouvre l'espoir pour tous ceux qui sont encore incarcérés.
Et le fait justement que cette mobilisation a été fructueuse, c'est un élément très important aussi.
Bien entendu, c'est un élément très important puisque ça montre que l'humanisme peut influer sur certains pouvoirs. Et c'est une leçon qu'on devrait mettre en exergue un peu partout et qu'on devrait apprendre à nos enfants. Si tu refuses, lève-toi et avance avec en fraternité.
Et vous venez d'écouter la présidente du Pen Club français, Carole Mesrobian, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.